Mes chers amis, bonjour. Ici David et bienvenue à la saison 2 de Quelle Histoire. J'espère que vous avez la pêche. Ça me fait grave plaisir de vous retrouver cette première semaine de printemps. La température remonte, les cœurs se réchauffent et je peux vous dire que je pète la forme. Et j'espère que c'est pareil pour vous. Avant toute chose, la famille, lâchez-vous. Laissez-vous aller. Si vous n'êtes toujours pas abonné, allez-y, faites-le maintenant. C'est sans douleur et ne laisse aucune séquelle. Vous allez être trop stylé. Abonnez à Quelle Histoire. Activez aussi la cloche pour rester connecté. Vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Aujourd'hui, je me pose avec une dame, un cador au micro. La radio s'épanche. Tous les samedis matins, sur les ondes de la radio de Radio-Canada, elle se présente à ses auditeurs comme soufflée d'une sarbacane. Romantique incurable, elle est Morgane de l'amour. Malgré les embûches de la vie, elle reste debout. C'est pas la mère à Titi, mais celle de deux jumeaux adolescents. Alors, je vous laisse découvrir qui est Jade, mon petit. Ta-ta-ta!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Bonjour Jade, comment vas-tu?
Ça va super bien, David, toi?
Très bien, comment va la vie?
La vie va bien. Là, je t'avoue que je suis un peu nerveuse parce que je me retrouve rarement dans la chaise de l'interviewé. C'est plutôt l'inverse.
L'arroseur arrosé.
Oui, c'est ça. Donc, je ne sais pas à quoi m'attendre, mais je te fais entièrement confiance. J'aime beaucoup, d'ailleurs, ce que tu fais. Moi, je les ai écoutés, les podcasts. C'est un bel honneur. J'espère que je vais en être digne.
J'ai confiance en toi. D'accord. Donc, on va aller directement dans le vif du sujet. Alors, je vais te demander, OK, de nous faire voyager un peu dans nos têtes. Guide-nous sur les ruelles de ton enfance.
Aïe, aïe, aïe. Et tu sais, c'est étrange parce que je ne pensais pas à ça avant. Puis depuis, j'imagine que ça vient avec les années de vie. Hein. J'ai 43 printemps, donc je commence à penser un petit peu plus à cette partie de ma vie avec un peu de nostalgie. Je me rends compte que, tu sais, je connais mes parents comme étant mes parents. Et j'ai la chance qu'ils soient encore vivants tous les deux. Mais c'est comme si le film, je ne l'avais jamais questionné. Tu sais, je ne connais pas tant mes parents en tant qu'individu. Donc, il y a beaucoup de zones, je me rends compte quand je creuse ce terrain-là, il y a beaucoup de zones qui sont floues. Je suis née en 1978 sur la rive sud de Montréal, à Greenfield Park, qui je pense ça s'appelle Longueuil maintenant. J'ai habité la première année de ma vie sur l'île de Montréal avec mes parents, puis toute jeune à un an, je suis arrivée à Saint-Constant. Je suis la première d'une famille de deux enfants. J'ai une petite sœur, Vicky, qui va avoir 40 ans cette année.
D'accord.
J'ai eu une enfance heureuse, une enfance très traditionnelle. Mère au foyer qui s'occupait de nous, qui nous attendait avec une collation quand on revenait de l'école. Puis un père, mon Dieu, qui travaillait 6-7 jours semaine dans les pièces d'auto mécaniques. Même que mon père, il remontait des vieilles autos dans le garage à la maison. Il s'était construit un gros garage. On habitait dans un semi-détaché. Puis on avait une cour plus grande que la maison. Puis il avait bâti un gros garage. Puis il remontait, c'est ça, des vieilles autos. Ouais, puis moi, je m'attachais aux objets, peux-tu croire? Je m'attache aux objets, c'est bien niaiseux, ça. Et chaque fois qu'il y a une voiture qui partait, je me rappelle que je la regardais, là, avec, tu sais, le nez collé aux fenêtres, puis je pleurais. Trop sensible.
C'est marrant que tu dis ça. Quand j'étais petit, moi j'ai grandi en Europe. J'ai grandi en Europe, en Belgique, en France, tout ça. Mais quand je rentrais en Afrique, des fois, on avait ce qu'on appelait dans la maison, on avait une grande maison. Mes parents étaient quand même riches, on était bien, on était dans une grande maison, tout ça. Mais on avait des poules, des vaches,
oui.
Et puis des chèvres et tout ça. Et ce qui se passait, c'est que moi, je me souviens des chèvres. Une chèvre qui venait à la maison, une biquette et tout ça. Et puis, la biquette grandissait. Et puis, on s'habituait. Au début, on a peur. Après, on s'habitue. Et puis, un jour, la chèvre grandit et tout ça, devient, voilà, quoi, mature et tout. Et là, un jour, on nous dit, le week-end, on va le manger.
Non.
Ah ouais, ça me brisait le cœur. J'allais me cacher parce qu'en plus on le tuait à la manière de.
Le rituel.
Le rituel, tout ça. Et puis j'étais par la fenêtre et je regardais, puis je voyais comment.
Arrête. Tu sais, je suis pas végétarienne, mais je suis très mal faite. J'ai eu une tortue petite. Ça a été mon premier animal de compagnie. Puis ma petite sœur, on a 3 ans et demi de différence. Je me rappelle qu'elle avait elle l'avait prise dans l'espèce de bocal vivarium machin. Puis elle en avait fait une petite voiture. Évidemment, elle l'a tuée, elle l'a écrasée. Dans ma tête d'enfant, j'ai pleuré toute la journée. Puis elle s'appelait Tortunette. En fait, c'est ça, David, le problème. Il ne faut pas leur donner de nom. Dès qu'ils ont un nom, là, ça devient... Non.
Il ne faut pas s'y attacher. Il faut les laisser tranquilles. Et puis voilà. Quoi. Et puis moi, je me souviens, ça arrivait, je crois, 2 fois parce que j'allais en Afrique. Je partais, je revenais. Des fois, je venais pendant l'année. Je passais 6 mois à l'école. Et puis après, je passais 6 mois en Belgique. Et là, j'arrivais, puis je voyais, puis je disais, mais comment ça se fait? Puis je mangeais même pas la viande. Quoi,
parce que non.
C'est possible. On l'a vu, là, je m'amuse avec et tout ça. Et là, je dois le bouffer. Non, c'est pas possible.
Oh mon doux Seigneur, écoute, tu vas me faire faire de l'eczéma un matin. C'est terrible. Fait que ça a été ça, ma vie de petite fille, trop sensible, trop. Moi, je pense que je suis née avec un espèce de puits sans fond de besoin. D'amour, puis de... Ah non, je suis une romantique finie. Puis ça devait être assez lourd, parce que j'étais une enfant qui pleurait beaucoup. Tu sais, je me souviens une fois, moi, mon premier grand amour, c'est Francis Cabrel, tu sais, puis j'ai peut-être 4-5 ans, puis je suis assise sur la banquette arrière dans le camion de mes parents, de mon père. Puis mes deux parents, on arrête à la station-service, met de l'essence. Fait que mon père sort, ma mère est assise sur le siège du passager. Je suis en arrière, puis là, il y a une chanson de Francis Cabrel qui s'appelle « Le temps s'en allait ». Connais-tu cette chanson-là?
Non. Bon, peut-être que je connais la chanson, mais je connais pas le titre, ne me dit rien.
Ah, ça dit « Aujourd'hui, j'ai joué aux billes, j'ai couru les filles et j'ai pris tout mon temps ». Ce soir, je pousse de ma canne les feuilles des platanes. Ça raconte que l'histoire va tellement vite. Puis là, le temps de le dire, t'es plus là, tu sais. Hey, je me mets à pleurer. Puis là, ma mère, écoute, qui se retourne puis qui sait plus comment me ramasser. Puis là, j'ai dit, je veux pas que tu meurs. Tu sais, juste trop, trop intense pour la ligue, là. Ben trop intense pour la ligue.
D'accord. Bon, moi, tu as eu une enfance quand même, je n'ai pas quand même une enfance heureuse, avec un papa, une maman, une famille, une sœur.
Oui, très traditionnel, très, très traditionnel. Exactement. Et j'ai des bons parents, mais des parents qui ne sont pas, et encore à ce jour, qui ne sont pas mes amis. Moi, je vais toujours être la petite fille de ma mère. Puis tu sais, des fois, on s'appelle, puis les rôles s'inversent tranquillement. Ils vont s'inverser plus les années vont avancer. Mais encore, ma mère me donne des conseils, puis je l'entends me dire, là, ma petite fille, hein, tu vas te placer, ma petite fille. Puis c'est correct, mais tu sais, j'ai une mère très, très autoritaire, très... Chez nous, c'était speak and span, là. Je veux dire, je pouvais pas m'asseoir sur mon lit quand mon lit était fait. Ma mère c'est une femme en ordre, rangée, qui fait à manger magnifiquement bien. Chez elle, tu peux manger sur le plancher de la cuisine tellement c'est propre. Puis des fois, elle vient ici, puis je veux dire, j'ai 3 enfants, 3 gars, j'ai 2 boulots. Donc, c'est correct, c'est en ordre, là, mais quand elle vient ici, là, si tu me voyais faire le ménage, je suis encore la petite fille de ma mère à 43 ans. C'est fou.
Non, mais c'est bien.
Je consulte pour ça.
Non, mais c'est bien quelque part. Bon, après, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais je veux dire qu'aujourd'hui, on a souvent nos enfants deviennent nos amis, ce qui est bien parce qu'on a besoin de ce rapport-là. Mais il faut quand même ne pas oublier, garder en tête qu'on est parents et nos enfants sont des enfants et ne jamais brouiller cette limite-là, quoi.
Quand ils sont petits, en tout cas, plus vieux, je ne sais pas. Là, je serais prête pour qu'elle soit mon amie. Là, peut-être qu'elle pourrait me lâcher la petite fille de temps en temps, mais c'est plein d'amour. C'est plein d'amour.
C'est instinctif.
Je pense que oui.
Alors, dis-nous, ton prénom Jade s'appelle J-H-A-D-E, donc il y a un H. Pourquoi avec un H?
C'est la faute de mon père, ça. L'histoire que je connais, puis tu vois, j'ai accepté la première version. Peut-être que si je creusais, j'apprendrais différentes affaires, là, mais mon père aimait ce prénom-là, qui est une pierre semi-précieuse, d'un beau vert et tout, tout. Et je suis née au mois d'août, donc si je comprends bien, il y a comme la pierre de naissance du mois d'août, c'est vert aussi, où ça tire sur le vert. Bref, il voulait ce prénom-là, mais avec l'espèce d'intention que sa fille soit différente de la pierre, du roc. Alors, il a trouvé que le H différenciait le tout. Mais ça, ça a fait que, je veux dire, du moment où j'ai été capable de le dire, il a fallu que j'appelle mon nom. Tu sais, quand on me trouvait sur les listes à l'école primaire, je me souviens, tu sais, il y avait Patrick, Luc, Yves, Mélanie, là, je savais qu'il était rendu à moi.
Mais le fait de les appeler tout le temps pour distinguer des autres forme notre caractère, je suppose. Je pense pas que je suppose, mais je le crois réellement parce que moi c'est pareil. Avec mon nom, non seulement je dois l'appeler, mais en plus je dois dire aux gens comment le prononcer. Donc quelque part ça nous distingue. Quand ça arrive à nous, justement, oui. Les autres, ça passe, Jean, François, machin, et puis, OK, David, oui, pas, OK.
Là, tu le sais que c'est toi
qui... Et là, tu le sais. Et là, tu te lèves, tu dois expliquer, tu dois l'appeler, puis tout le monde te regarde, et puis tout d'un coup, tu te... Voilà, quoi, t'es singularisé, mais peut-être pas méchamment, mais directement, on sait que c'est le gars avec le nom compliqué, et puis machin, et puis tout de suite, ben voilà, quoi, ça forme le caractère.
Oui, mais en même temps, je sais pas pour toi, mais pour moi qui était avide, moins aujourd'hui, mais à l'époque, qui était avide de cette d'attention, puis d'être différente, puis de... Tu sais, je suis une perfectionniste, moi, je voulais pas être la meilleur, je voulais être le bout du monde, là, tu sais, c'était... trop gênée pour le dire, donc j'étais pas si pesante, si lourde que ça, parce que c'était des films que je me faisais dans ma tête, mais qu'on arrive à mon nom, puis qu'on me donne la seconde et demie de plus d'attention, juste pour le prononcer, ça m'a jamais dérangée. Puis en même temps, c'est peut-être pas innocent au métier que j'ai choisi non plus.
T'sais. Ah oui, bien sûr. Moi, c'est pareil. C'était juste que ben, voilà, ça me singularisait. Puis ça faisait. Puis ça poussait peut-être d'autres personnes à venir me voir et me demander d'où je venais, machin. Et tout. Et en plus, moi, à l'époque, petit, j'étais dans des écoles où j'étais peut-être le seul noir, où il y avait deux noirs. Non seulement j'étais noir, le seul, dans ma classe, dans l'école, dans ma classe. J'avais un prénom, ça passait. David, ben là mon nom, j'étais vraiment, on savait qui j'étais dès le premier jour d'école, le noir avec le nom compliqué, tout
cool
ça,
guy, le cool guy de la place. Cool. Moi j'aurais voulu avoir juste un peu d'envergure, en fait, plus d'envergure que ça. Tu sais, j'ai commencé à faire du théâtre puis à oser l'art oratoire, tout ça à la fin du secondaire, mais je me dis, oh mon Dieu, si j'avais eu la moitié des nerfs ou du cran que j'ai aujourd'hui à l'école primaire, j'aurais fait des ravages, ça aurait été extraordinaire, mais non, j'étais pas émotivement constituée comme ça.
C'était fait comme ça. Et t'as été acceptée dans une école de théâtre, mais tu n'as fait qu'une année en fait. Pour quelle raison?
J'ai été coupée et moi, je voulais être comédienne. À la fin du secondaire, je fais partie d'une troupe de théâtre. Je joue un rôle qui, moi, m'a touchée beaucoup, beaucoup. C'est la mère d'Émile Néligan, Émilie Néligan. Donc, je joue la mère de Néligan, le poète. Et on s'en va en France présenter dans un festival de théâtre à Cholet. On s'en va présenter ça. Et là, j'ai une révélation. Je veux être comédienne. Donc, je m'inscris au Conservatoire La Salle, au Cégep, qui est une école, un Cégep, un DEC, là. Mais en même temps, c'est spécialité jeu, donc théâtre et communication. Là, il se passe quelque chose. Je veux dire, moi, j'ai toujours été OK, bonne, mais moyenne à l'école. Et là, au cégep, il se passe quelque chose. Donc, je décide de préparer mes auditions pour les grandes écoles de théâtre. La première année, J'avais une scène de, oh mon Dieu, Goldoni, puis j'avais Jocelyne Trudel trouvée morte dans ses larmes, qui s'est traduit par Jeanne, mon petit, trouvée morte à son audition. Là, ça n'a jamais marché. Bon, en attendant de pouvoir refaire mes auditions, je suis allée étudier à l'université pour être professeure au primaire. J'ai fait un an là. Et la deuxième fois que j'ai passé mes auditions, là, on m'a acceptée au stage à Montréal, au conservatoire, à Québec, puis à Lionel Groulx, à l'option théâtre. Puis finalement, j'ai été retenue à Lionel Groulx. Mais cette école-là, c'est un peu comme, tu sais, comme au hockey, là, quand tu fais le camp, mais que tu es coupé après, bon, ben c'est ça. Ils font de l'épuration, puis j'ai été coupée après un an. Et là, je me suis dit, ça y est, ma vie est finie. Moi, je sais juste faire ça, jouer. Puis clairement, je ne dois pas savoir si bien jouer que ça parce qu'on se débarrasse de moi. Je l'ai pris bien, bien dur, mais c'est l'orgueil puis la grosse peine. Puis je pense que c'est le premier vrai échec. Que, tu sais, j'avais pas le contrôle sur cette situation-là. On me disait, j'ai le regret de vous informer que vous êtes plus là l'année prochaine. Et c'était pas, dans ma tête, c'était pas une possibilité, tu sais, naïve. Donc, je me suis retrouvée à vendre la bière comme barmaid dans un bar l'après-midi. Oh, c'était terrible. Mais il y avait plein de bon monde, des gens gentils. Mais oh mon Dieu, c'était... J'ai eu le temps de penser à mes vieux péchés en masse cette année-là, puis à me dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie?
Effectivement. Quand je t'écoute parler, quand je t'écoute à la radio, quand j'entends ta voix, j'ai toujours eu cette impression-là en t'écoutant que tu étais en pleine prestation à la radio. Sérieusement. Donc, consciemment ou pas, tu montes sur les planches à chaque fois que tu te retrouves derrière le micro. Ça, c'est l'impression que j'ai, quoi. Je sens ça.
La vie est un spectacle.
Non, mais c'est en même temps, c'est un show.
Je faisais ça quand j'étais petite. Tu sais, l'enfant fatigant, là, quand il y a de la visite, hey, j'ai fait un spectacle. Hey. Puis là, j'avais toujours une tante super gentille qui passait le chapeau. Et mes parents, ils devaient trouver ça. Ça devait être pesant, par exemple. Et puis, je me rappelle d'embarquer ma sœur là-dedans, ma sœur qui est plus introvertie, qui n'en a rien à foutre des feux de la rampe. Puis là, je disais, mais toi, dans le show, tu vas faire telle affaire. Puis sur les vidéos, parce que, écoute, je poussais le bouchon puis je filmais ça, il y a toujours ma sœur qui a l'air de dire, veux-tu bien me dire qu'est-ce que je fais là? J'ai aucun plaisir. Tu sais, je forçais les gens à participer à mes mises en scène. C'était épouvantable.
J'ai ma fille qui est pareil, j'ai une fille de 12 ans, elle veut faire du cinéma. Bah, en plus, elle est bonne parce qu'elle passe, elle est dans des publicités de télé, sur des photos, elle a même joué dans des films américains, des petits rôles, tout ça. Et c'est tout le temps, papa, attends, je vais te faire un spectacle. Attends, papa, je vais te montrer un truc. Et puis, à un moment donné, ta tête est là, mon Dieu.
Okay, mais en même temps, là, tu lui dis, ça, là, ça va te servir dans la vie. Il faut juste poser, mais c'est merveilleux.
Et, ah ouais, c'est incroyable. Et puis, justement, il y a le mois dernier, elle a participé à un spectacle de théâtre à l'école. Elle a pris le plus long rôle avec le plus de dialogue. Ouais. Et puis, elle dit, papa, je sais pas si je vais réussir. Tout ça, on m'a demandé ça. Et moi, je dis, bah, écoute, t'as choisi ça, donc je sais que tu peux, donc tu vas le faire. Et puis, allez, vraiment, je comprends, je ressens ce que ressentaient tes parents.
mais en même temps, c'est ça, c'est certain, moi, mes parents ont toujours, tu sais, j'ai entendu « je t'aime », j'ai entendu « je suis fière de toi », j'ai entendu, puis j'ai fait de la figuration, ils m'ont fait des lifts pour faire de la figuration dans différents téléromans. Tu sais, j'essayais des affaires, mais j'ai toujours été la bonne deuxième. Puis, il y a quelque chose, il y avait comme quelque chose qui me... Pas un sentiment de... Pas un accomplissement total, tu sais, dans les concours ou tout ça. Moi, je numéro 2, c'était pas mal médaille d'argent là, dans mon genre. Puis j'ai essayé le sport, mais tu sais, là aussi, j'ai fait 9 ans d'arts martiaux. Mais tu sais, ce que j'aimais le plus, c'est quand on faisait des démonstrations devant public. Fait que tu vois bien que dès qu'il y avait des compétitions, puis il fallait que je me batte, oh mon Dieu, j'aimais pas tant ça.
Tu préférais les katas qu'au combat, quoi.
Absolument, c'est là où j'excellais. Mais c'est drôle, avec le recul, puis avec la meilleure compréhension de qui je suis quand je regarde la petite Jade, parce que je suis très touchée par la petite Jade, parce qu'elle était vraiment tout croche, puis elle n'avait aucune idée où elle s'en allait, mais je trouve qu'elle s'en est quand même bien tirée. Mais avec du recul, je me dis, oh mon Dieu, je suis passée par Paris pour revenir à Gatineau, là.
Ouais, mais ça fait partie de ton parcours, ça fait partie de la vie, et puis peut-être que c'est ça qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Bah, c'est sûrement, c'est ça. Et voilà, quoi. Et puis dans la vie, c'est ça. Moi, je dis toujours à ma fille, hein, je lui dis, elle veut tellement faire plein de choses. Et puis je lui dis toujours, bah, ça dépend de toi. Ça dépend de toi, c'est à toi de foncer. Tu peux le réussir, il n'y a rien qui est impossible pour toi. Tu vas le faire, mais il faut que tu sois assidu et que tu te rends compte
Travail.
que tu dois travailler et qu'il y a des moments où tes amis seront en train de s'amuser et toi tu pourras pas. Et tu te souviendras de ce que je te dis parce qu'il n'y a que ces gens, il n'y a que ceux qui font des sacrifices qui éventuellement réussissent.
Oui, et c'est vrai ça. C'est vrai parce que moi, j'ai toujours été pour ça un bourreau de travail. Peut-être parce que je l'avais moins facile académiquement que des amis, donc j'avais pas le choix de travailler un peu plus. Mais puis tu vois, à un moment donné aussi, à l'âge où je suis, il faut que tu acceptes de laisser aller certaines affaires. Parce que moi, j'ai une émission de radio par semaine hein, le samedi, puis je travaille dessus toute la semaine. À un moment donné, il faut le laisser aller. C'est pas parce que tu fais des 12 heures par jour que le show va être nécessairement meilleur. Arrêter de contrôler ou de vouloir contrôler tous les paramètres et de tout regarder en se disant, ouais, c'est bon, mais comment j'aurais pu faire mieux? Tu sais, à un moment donné, moi, j'étais en train de m'épuiser à comment j'aurais pu faire mieux, puis à vouloir répondre à tous les courriels et rencontrer tous les gens qui voulaient nous rencontrer, donner une place à tous les artistes qui voulaient passer sur le show. La culpabilité était rendue qu'elle prenait beaucoup, beaucoup de place. Et là, ça devient un petit peu moins le fun de gérer ça. Tu sais, il faut que les choses dans lesquelles tu t'investisses, que tu t'investis, restent en tout cas agréables la plupart du temps, le trois quarts du temps, toujours.
Ben oui, voilà, je vais rebondir justement sur ça. Quel rôle ta quête de perfection a joué dans ta vie? T'a-t-elle servi ou pas?
Pas toujours, pas toujours. Puis encore aujourd'hui, pas toujours. Parce que quand tu veux être parfaite, c'est que tu as de la misère à célébrer les victoires, tu as de la misère à voir le grand dans le petit. Il y a toujours ce que tu aurais pu faire, ce qu'il faut que tu atteignes et tu vis beaucoup dans une espèce de projection. Moi, j'ai longtemps été comme ça. J'ai été très complexée, très jeune. Oh mon Dieu, moi, toute petite, là, je me faisais achaler à l'école. Puis j'ai été victime d'intimidation au secondaire aussi parce que mon corps s'est transformé avant celui des autres petites filles. T'sais, moi, j'ai voulu appartenir à des groupes. Vite, vite, vite. Oh non, ça a été difficile. Puis je me suis réfugiée beaucoup dans la chanson française. Hey, que j'ai lu. La littérature, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. Puis j'aspirais toujours à. Tu sais, je me couchais le soir, là, puis là, je rêvais que j'étais sur scène, puis que c'est vers moi que les gens se tournaient, que j'avais des applaudissements, que j'étais adéquate. Donc, cette quête d'être adéquate, puis tu sais, je disais encore à 43 ans, quand ma mère arrive chez moi, que la maison soit à son goût, à elle. Tu sais, la quête de plaire ou le besoin d'être validé par le regard des autres, fait que c'est pas sain. Tu sais, à un moment donné, de toute façon, maintenant, en 2022, j'ai plus l'énergie pour ça. Puis
D'accord.
je le sens dans mon corps, que la perfection, ça va me rendre malheureuse plus qu'autre chose. Je commence à lâcher prise, mais il y a des vieux réflexes qui reviennent et des vieux réflexes des fois qui font en sorte que j'ai beaucoup de misère à me satisfaire de ce que j'ai fait, même si je sais que c'est bon. T'sais? Fait que c'est non, la perfection, c'est travailler. Ne pas travailler en dessous. Tu vois, c'est ça que je dis à mes garçons. Joue pas en dessous de ton talent. Du moment où tu joues au niveau de ton talent, puis on sait qu'on ne peut pas être bon dans tout, célèbre. Tape-toi dans le mythe, donne-toi une tape sur l'épaule, mais là, célèbre. Sinon, t'as beau de gosser sur une huître, t'as beau de crever le jaune, quand tu es arrivé au bout de ce que tu pouvais donner cette journée-là, célèbre, parce qu'autrement, tout le bon que tu as fait va se transformer en déception, puis c'est pas normal d'être déçu d'avoir bien fait, là.
Bon, en gros, ne pas être un éternel insatisfait.
Ben ça gosse, puis ça gosse les autres aussi autour de toi, parce que
Effectivement.
moi, je travaille en équipe. Donc, du moment où j'envoie comme message que c'était bon, sauf que ben, c'est un peu ce que j'envoie sur tout le reste de mon équipe, que j'admire, entre autres à la radio. Moi, je travaille avec les pros parmi les pros. Alors, si j'envoie comme capitaine d'équipe le message que ouais, je suis pas entièrement satisfaite, mais on va se reprendre à la prochaine émission, ben, ça leur envoie le message qu'ils n'ont pas été à la hauteur. de mes attentes. C'est pas, je veux pas être ce chef-là.
Effectivement. Et comment est-ce que tu t'es lancé à la radio? Ça a commencé quoi?
Ça, c'est drôle. J'ai fait un petit peu de radio communautaire au cégep. Puis c'était pour donner un coup de pouce à des amis. Puis j'avais trouvé ça le fun, mais je n'avais pas pensé à ce moment-là en faire un métier. Et quand je me suis retrouvée, tu sais, quand on m'a mis dehors de l'école de théâtre, puis je me suis retrouvée dans le bar, là, à travailler.
Ah, pas bien.
Ma mère, encore là, ma mère, je lui dois une fière chandelle, ma mère m'a inscrit à un concours en cachette. Ça s'appelait... C'est incroyable. Ça s'appelait Miss Personnalité. Bon, plus tard, ça s'est appelé Révélation, là, mais c'était un concours à travers le Québec où les filles participaient. C'était pas un concours de beauté. Tu n'avais pas de défilé en maillot de bain, tout ça. C'était animé par Gino Chouinard et on devait... C'était un concours un peu oratoire où on te posait des questions de culture générale, tout ça. Puis il y avait des chorégraphies, il y avait de la danse. C'est très artistique. C'était un gros show au Théâtre Saint-Denis. Et donc, j'avais été finaliste pour participer à ça. Je ne sais pas combien de filles avaient posé leur candidature, mais on devait être une soixantaine pour la grosse finale. Puis j'ai fini par gagner, imagine-toi.
Finalement.
Ben oui,
j'ai dit. T'es première.
Non, là, c'est la première fois que j'ai été première. Et parmi les prix, il y avait un cours à l'école de radio Promédia à Montréal, sur Sainte-Catherine. Puis j'habitais pas loin, donc je suis allée faire le cours. Et là, il n'est plus directeur de cette école-là, mais l'ancien directeur. Disons que je rentrais avec une prise contre moi parce que le prix d'entrée était assez élevé pour cette école-là, puis moi, je n'avais pas payé. J'étais l'espèce de parvenue qui avait gagné un concours de Miss Personnalité. Donc, je peux comprendre que le préjugé, je veux dire, peut-être bien que je l'aurais eu moi aussi, tu sais. Mais mon orgueil, là, et je me suis dit, c'est pas vrai qu'on va me percevoir comme ça. Je vais tellement travailler. J'ai fini première de ma promotion. Du groupe, ouais, et le directeur adjoint de l'école remplaçait dans une station de radio à la chute cet été-là. Et quand il a vu mes performances, ben il m'a dit, ça te tente-tu de venir travailler avec moi cet été? Donc j'ai commencé, j'habitais à Montréal, je travaillais à la financière Manuvie, les assurances médicales dentaires. Donc je travaillais le matin jusqu'à midi, Mansfield Maisonneuve. J'habitais à Saint-Léonard dans ce temps-là. Puis à midi, je prenais mon vieux char. J'avais une vieille Oldsmobile Firenza 87, rouge et rouille. Puis je montais c'était à Hawkesbury pour animer le 4 à 7 de Radio Fusion dans un sous-sol de la rue principale à Hawkesbury.
D'accord.
Puis à 7 heures, je retournais à Saint-Léonard chez nous. Puis je recommençais du lundi au vendredi. Hey, les contraventions de vitesse que j'ai pognées à Mirabel, c'est laid, là. Je devrais même pas dire ça. C'est pas beau. Mais c'est comme ça que j'ai commencé à la radio, grâce à ma mère qui m'a inscrit à un concours. J'avais plein de préjugés. Je voyais donc, maman, qu'est-ce que c'est? Puis finalement, ça a changé ma vie, tu vois.
Ah, c'est très bien. Ça me rappelle Eva Avila,
oui.
La fameuse Eva Avila,
oui.
Justement. La veille du jour où elle devait se présenter à Canadian Idol. On a enregistré une chanson ensemble et puis j'ai été la déposer chez elle et puis elle me posait la question, elle dit, qu'est-ce que t'en penses, j'ai honte, tout ça, si on a toujours des préjugés par rapport au concours, tout ça, et puis j'ai dit, écoute, vas-y, qu'est-ce que t'as à perdre, t'as rien à perdre, tu vois, et puis on verra bien.
Puis c'est le fun, il y a un public, il y a toi, il y a une performance, il y a la scène, t'aimes ça, je veux dire, goody, roule-toi dedans, puis je veux dire, advienne que pourra, rendu là, c'est une occasion, c'est une expérience.
Effectivement. Donc, souvent, on a des préjugés sur des choses, peut-être parce qu'on entend les gens le dire, et puis à un moment donné, on répète les choses, mais quand on se rend compte, on se dit, une personne va travailler dur et puis va réussir finalement 2, 3 ans, 10 ans plus tard, tant mieux. Mais, et si quelqu'un peut le faire en 6 mois, pourquoi pas? Pourquoi tout le monde doit passer par... C'est pas mauvais non plus.
C'est comme si on valorisait les chemins de traverse, alors que, honnêtement, je pense que c'est encore le désir d'appartenir au groupe de bien-pensants. Tu sais, je veux dire, d'être passé par le chemin le plus dur, entre toi et moi, ça rend pas le résultat plus...
moins
valable ou moins...
Exactement.
Ouais.
C'est comme gagner le million à la loterie et tu tombes avec d'autres millionnaires et tu te dis, ouais, mais toi, t'es millionnaire de la loterie.
Moi, tu l'as quand même dans ton compte.
Ouais, mais je suis quand même millionnaire. Oui, on parle entre millionnaires, oui ou non?
Mais tu sais pas ce que je vais faire avec mon million. Peut-être que je vais être une grande philanthrope. Puis tu sais pas.
Ben voilà, voilà. Bon. Donc tu peux pas me regarder de haut parce que mon million, je l'ai gagné rapidement. C'est vraiment.
Tu aurais fait pareil si tu avais pu. Ben oui.
Tu l'aurais pas rejeté. Non. Voilà. Effectivement. Donc, vous avez des jumeaux de 13 ans.
Oh oui.
En pleine adolescence. Mm-hmm. Donc on joue. Comment avez-vous vécu cette pandémie?
Moi, quand j'ai connu mon conjoint, il y avait un petit gars d'un an hein, qui a 16 ans aujourd'hui. Puis, d'accord, on se trouvait bien bon avec ce petit gars-là. Donc, on en a fait un autre qui s'est avéré un set de jumeaux. Donc là, dans d'accord, la maison, on a un set de jumeaux de 13 ans et un ado, un autre de 16, qui a une maman merveilleuse et très présente. Donc, je dis ça, là, mais je veux dire... Mais, aïe, 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 la maternité, c'est le contrat le plus exigeant qui m'a été donné dans ma vie. Et appelez pas les services sociaux, là, j'adore mes enfants. Mais pendant la pandémie, l'école à la maison, tu sais, là, ils sont en secondaire 1, les jumeaux, ils étaient en cinquième année quand ça a commencé, tout ça. Puis, je suis une prof de formation, je veux dire, j'ai pas eu le bac, là, mais j'ai fait quand même quelques
t'étais
années.
Deuxième.
Oui, c'est ça. J'ai fait quand même une formation à l'UQAM en éducation préscolaire, enseignement primaire, puis j'ai enseigné, j'ai fait de la suppléance. Alors, je me suis dit, ben l'école à la maison, regarde-moi bien, super maman, je suis capable. Oh, tu sais, je les ai tenus serrés, les jumeaux, là, mais quand c'est maman qui enseigne, c'est pas la même affaire. Mais moi, je suis rentrée dans la pandémie avec, c'était peurant, mais on va en profiter pour se retrouver dans notre petite bulle comme c'est pas arrivé souvent. On va prendre ce temps d'arrêt-là pour passer du temps ensemble. Mais ça revolait, David. Là, mes matinées, j'avais fait un horaire strict d'école pour les gars. Je voulais pas qu'ils jouent aux jeux vidéo la semaine, donc je les envoyais jouer dehors. J'avais mis des récréations là-dedans pour pouvoir travailler l'après-midi. Ah, tu sais, là, encore là, l'ambitieuse, là.
Ouais, c'est ça.
Puis ça a duré une couple de semaines. Puis tu sais, là, tranquillement, l'horaire se transformait parce que là, j'avais des contrats, puis j'avais... Ah, oh, mon Dieu! Je pense que je me suis un peu brûlée, là. Tu vois, là, j'ai recommencé à consulter parce qu'à un moment donné, je me disais, bien, il faut qu'il y ait de la place pour moi dans l'équation. Puis il n'y en a pas tant que ça. Donc, ça a été... Je ne suis pas prête à dire que ça a été l'enfer parce qu'il y a eu du bon, mais il y a eu des drames. On a perdu des gens pendant la COVID, puis ça a été difficile, ça a été anxiogène. Mais moi, je suis de ces parents, tu sais, qui protègent les enfants, mais je les fais parler, puis tout ça. Donc, il y a eu beaucoup de grandes discussions auxquelles je n'avais pas les réponses. Ça a forcé beaucoup, beaucoup la réflexion. Ouais.
Et moi, je avoir deux garçons ou trois, peu importe, des adolescents, ça devait être du sport parce que je sais qu'à cet âge-là, on est en pleine, un peu comme tous les enfants, hein, on est en pleine transformation, mutation, tout ce que on mange comme des ogres. Et puis,
oui!
C'est le bordel, on dirait que le bordel fait partie de nous. Tout est à l'envers, on ne se comprend pas, on ne fait pas attention, on se cogne, on se blesse, on est maladroit. Alors, je vois déjà avec un garçon, d'accord, mais trois.
Ils sont tellement extraordinaires. Écoute, d'abord, ils déplacent de l'air, c'est incroyable. Moi, je me souviens, mon père m'amenait voir des parties de hockey dans le temps au Forum de Montréal quand j'étais petite. Puis, je parle là, mais je parlais dans le temps. Puis, je me rappelle mon père qui me disait entre la 2 puis la 3, papa, peux-tu juste regarder la game? Juste, mais mes enfants, c'est pareil. Dans la même maison, là, je leur disais des fois, non seulement vous prenez de la place physiquement, mais même quand vous êtes en bas, vous prenez de la place dans mes oreilles. Donc, il faut qu'il me reste une place dans cette maison-là. Tu sais, c'est trois sportifs. Là. J'en ai deux sport-études baseball, j'en ai un sport-études soccer. Puis moi, je suis là à vouloir les amener au musée. Hey, David, je les ai amenés au musée des Beaux-Arts avant que ça ferme. Ils ont touché à un riopelle. Ils ont touché. L'alarme est partie dans le musée. Je capotais. La honte. Puis là, je leur disais, mais voyons, les gars, dans quel fuseau horaire vous pensez? Ben voyons. Fait que, tu sais, c'est... Pff, non,
bah, c'est... Cet âge-là, on est déconnecté de la réalité. On pense à des choses. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, c'était le bordel de 13 ans à un peu plus tard quand même. Et à un moment donné, je regarde en arrière, je dis, mais comment tu pouvais faire des choses comme ça? Qu'est-ce qui... C'est comme ça, on est
le cortex, moi, j'arrête pas de leur dire, c'est, tout est dans le cortex préfrontal. Tant que c'est
Il y a une déconnexion, il y a un truc, en fait, il y a un court-circuit.
C'est une affaire de synapse. Tant que c'est mou, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est beau de les voir parce qu'ils ont le cœur à la bonne place, les trois. Ils prennent soin de leur grand-maman. Nous, on voit grand-maman à tous les dimanches, la mère de mon conjoint. Je suis très, très proche de ma belle-mère. Puis mon beau-père est décédé subitement en mai. Donc, les enfants sont... Tu sais, tu le vois, là, la façon dont ils traitent les autres humains, mais ils sont tellement... tu sais, j'en ai un qui veut tellement faire rire qu'à un moment donné... Il dose plus, là. Il fait une bonne blague, on rit. Il en fait 42, pas drôle, pour aller en chercher une autre. Il cherche le rire à tout prix. Puis j'en ai un autre qui a les hormones dans le tapis. Je veux dire, il s'endure pas lui-même. Fait qu'il y a bien de la misère des fois à endurer les autres, mais c'est un nounours. Tu sais, c'est lui qui a besoin de se coller. Puis j'ai encore des « je t'aime, maman ». Puis c'est bruyant, mais c'est du beau bruit.
Ça fait partie de la vie et puis c'est que du bonheur et plus tard, on se souvient et puis ça, c'est que des bons souvenirs. Quoi.
Et puis moi, j'ai eu une crise d'adolescence assez rock'n'roll, fait que j'imagine qu'eux autres... ma mère, quand je l'ai appelée, puis je l'ai appelée à un moment donné, les enfants étaient plus petits, puis c'était la folie. Puis je lui disais, ben, tu sais, elle est à Drummondville. Je disais, prends le train, je paye le train, viens m'aider, je t'aboute, je suis tannée. Puis je me rappelle qu'elle était partie à rire, puis elle m'a pas dit, ben bon, mais c'est tout comme, là. Mais moi, c'est ça. Comparativement à ma sœur, je lui en ai fait voir de toutes les couleurs.
Ah, d'accord, d'accord. OK. Donc, anime l'émission Les Malins depuis depuis janvier 2016.
Oui.
Okay? Et à la radio de Radio-Canada, de 7h à 11h du matin pour ceux qui nous écoutent. Peux-tu nous faire un survol de la préparation d'une émission? Un survol rapide, ça se passe comment? Moi, je vois ça, je t'écoute et puis je te vois et puis je me dis, avec tous les trucs à l'oreillette, machin, nanana, les invités, comment ça se passe? Est-ce que ça se passe en une journée, en une semaine, en trois jours, la veille? C'est l'impro, c'est un peu de tout.
La meilleure impro, c'est l'impro qui est préparée. Toi, t'es déjà venu en studio, tu nous as vu travailler. Ouais. Moi, ce qui me fait sourire, puis ce qui me fait plaisir aussi, c'est les gens qui me disent, ben toi, tu travailles juste le samedi. Fait que je me dis, hey, ces gens-là m'estiment assez pour penser que je suis brillante comme ça en me levant le samedi, puis que je peux aligner 4 heures de radio. C'est merveilleux. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est sûr que quand on anime une quotidienne, comme mes collègues Mélanie Boissonneau ou Philippe Marcoux, le beat de préparation n'est pas le même parce qu'on est dans le feu de l'action. Les entrevues se font au téléphone, il se passe quelque chose, on va appeler un invité, on va trouver. Donc, c'est toujours... nous, on a le luxe du temps, c'est ce que je dis. C'est, moi, je fais rarement d'entrevues au téléphone. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller rencontrer les gens sur le terrain. Je vais faire des reportages. Je vais avoir le temps, si j'ai un invité, de lire son livre. Je vais avoir le temps d'écouter l'album au complet puis de faire une entrevue peut-être plus concept. Et c'est ce que j'aime. T'sais, j'aime, on a la portion grande entrevue. Donc, c'est une entrevue d'une demi-heure à chaque semaine, mais juste ça. C'est une demi-journée de préparation et c'est sans compter qu'on est une petite équipe de trois. Donc, trouve les sujets dont tu veux parler, trouve le casting à qui tu veux t'adresser. Le meilleur casting aussi, parce que souvent, pour un sujet, on essaie 2-3 personnes en pré-entrevue puis on finit par choisir. Mais ça, c'est moi souvent qui va téléphoner, qui va faire les pré-entrevues. J'ai Mathieu, mon recherchiste, qui est extraordinaire pour les grandes entrevues. C'est lui qui les fait. Mais ensuite de ça... T'sais, disons par exemple que j'ai rencontré quelqu'un, ben je reviens avec le matériel, c'est comme toi. Je m'assois avec une heure de matériel, puis je veux réduire ça à une demi-heure ou à 10 minutes. Trouve la musique, donc c'est du bricolage. Mais j'aime ça. Donc moi, je mets probablement plus de temps qu'il faudrait, mais on règle ça en 4 jours. 4 jours de travail pour 4 heures de show.
Wow!
D'accord. Mais c'est ça, on travaille complètement différemment quand on a une seule émission à produire, puis c'est une émission en direct. C'est la plus belle gig radio, moi, que j'ai eue de ma vie, là.
Ouais, les aléas du direct et puis tout ça. Non, mais c'est vrai que... Mais il faut prendre ça positivement parce que quand les gens pensent qu'on arrive et puis on travaille une journée, puis c'est comme ça, c'est parce que justement, c'est fait avec une certaine fluidité et que c'est tranquille, que les gens pensent que bah, c'est pas...
C'est parce que tu as bien fait ta job. Moi, j'ai un chroniqueur, François Lemay, qui me disait, il dit, quand tu t'en vas voir un musicien là, qui te joue un concerto, qui te joue du Chopin, par exemple, tu n'as pas envie qu'il s'arrête entre deux notes et qu'il fasse « Oh, c'est donc bien difficile, ce passage-là! » Mais non, tu veux que ça coule, tu veux avoir l'impression que c'est facile et que tu peux jouer la même chose. Ça veut dire qu'il fait bien son travail.
Effectivement. Ouais. Alors, Jeanne.
Oui.
Tu aimes bien faire plein de choses, comme écouter de la musique, le sport, normal, la lecture, normal. Mais il y a trois autres choses qui ont attiré mon attention, OK? T'aimes le whisky.
Ah oui, oui, oui.
La soupe faux.
Oui.
Et te promener dans les cimetières. Oh. Peux-tu élaborer un peu sur ça? Déjà, pour commencer, le whisky. Hein?
Oui, ça, c'est mon héritage paternel. Mon père et moi, on partage cette passion-là. Et mon grand ami Clinton Archibald, qui est un collègue aussi au Malin. Et puis, je ne dis pas que je connais beaucoup le whisky, mais au fil des ans, je commence à trouver un peu mes préférés. Mais je suis encore... Je découvre encore beaucoup. Mais c'est fou, hein? C'est une boisson. D'abord, tu ne peux pas te mettre chaud d'ail avec du whisky. Là, je veux dire, à un moment, il faut que tu dégustes ça. Donc, le plaisir de partager, le plaisir de déguster, c'est un alcool qui réchauffe aussi, au sens propre et figuré.
Oui.
C'est peut-être mon petit côté aristocrate. peut-être que je me fais désaccroire aussi, mais je t'avoue que dans les alcools forts, celui-là, pour moi, il y a quelque chose et je rêve d'aller en Écosse un jour. Mais c'est une passion qui me vient vraiment... C'est ça, c'est une passion que je partage avec mon père, avec mon ami Clinton. Et mais c'est vrai que ça fait encore sourciller. Pourtant, je connais plein de femmes qui aiment le whisky. Puis d'ailleurs, on va se partir un petit club de whisky avec Clinton prochainement, là, quand la pandémie permettra.
Moi, c'est pas parce que t'es une femme. Non. C'est juste parce que en te lisant, et puis souvent les gens disent bois, une boisson, bois. Et là, t'as précisé whisky.
Ah oui. Mais je me suis lancée dans la microbrasserie. Là, j'en fais pas, mais j'en consomme. Puis j'ai des microbrasseries, j'aime beaucoup. Je sais. Tu sais, j'écoute Brel, Brassens, Barbara, puis je bois du whisky. Ça fait très bourgeois.
Pourquoi pas? Hein?
Puis le reste, qu'est-ce que je t'ai dit que je...
La soupe faux.
Ça, n'importe quelle soupe. Moi, j'ai un type soupe. Puis je m'obstine avec mon co-animateur, Hugues Beaudoin-Dumouchel, qui dit qu'une soupe, c'est pas un repas. Non. Une soupe, c'est un repas. Il faut juste savoir quoi mettre dedans. Mais une faux, c'est assurément un repas. Et d'ailleurs, les gens qui ont des restaurants faux à me faire découvrir, ça, je suis restaurant vietnamien ou en tout cas, je prends toutes les adresses. Puis les cimetières. Tu sais, moi, je suis agnostique. Là, est-ce que je suis athée? J'ai longtemps dit que j'étais athée, mais en fait, je ne sais pas. Moi, je suis née catholique, baptisée, première communion, et j'ai fait du théâtre biblique à l'église et tout. Puis à un moment donné, j'ai défroqué parce que j'ai posé plein de questions, puis j'ai pas eu les réponses que je voulais. Mais j'ai été à l'église jusqu'à 12 ans. Là, j'ai servi la messe et tout et tout. Mais ce qui m'est resté de cette époque-là, c'est les cimetières. Je trouve ça beau. Je trouve, c'est comme si j'allais rencontrer des gens. Tu sais, souvent, il y a des petits mots qui te donnent l'impression que tu rencontres Claude un tel. Ou bien, il y a des photos, il y a des fleurs, c'est paisible. Puis j'aime le cimetière Beechwood. J'ai un attachement au cimetière Beechwood. Ça m'arrive d'aller prendre des marches à cet endroit-là. Oui, je trouve ça... J'ai un grand respect pour les gens qui sont passés sur cette terre avant moi, puis qui ont fait des petites et des grandes choses. Donc, ouais, c'est comme une espèce de... un endroit de méditation, je te dirais. Pour une fille qui n'a pas tant de spiritualité que ça, c'est un endroit où je me sens bien.
Ah, ben, très bien. Il y a un dernier truc qui m'a fait rigoler, un autre truc. Hein. Généralement, les gens ont comme animaux domestiques, des chiens, chats, lapins... Mais Jeanne, t'as deux chèvres.
En fait, Mais ils sont pas à moi. Mais je capte.
Pas tes chèvres.
Non, non. Mais c'est pour ça quand tu parlais des chèvres tantôt. Non, mais non, mon chum, il me laisserait jamais avoir ça à maison.
Parce que je t'ai vu sur Insta en train de nourrir des chèvres avec des couches et des biberons et tout là.
Écoute, j'ai une amie là. Après, c'est Noé. Mon amie, c'est Noé. Elle va chercher des animaux. Je veux un refuge chez elle. Elle les soigne et soit elle les garde ou soit elle les amène sur des fermes ou à des endroits où ils vont être heureux. Mais là, dernièrement, elle est allée chercher Mondou. 8 lapins, 2 oies, il y a 2 canards, elle a 2 chèvres, puis elle a un chien, un chat à elle. Écoute, je te dis, puis je pense qu'elle a 18 poules, puis elle est en train de faire des enclos pour tous ces animaux-là, mais les chèvres sont dans la maison. Ça, là, juste pour faire damner ma mère, j'ai envoyé les vidéos, mais rire, c'est beau, puis c'est fin, mais c'est... Écoute, encore plus énervé que mon set de jumeaux, ces bébêtes-là. Ça a été, là... Mon amie, c'est un cœur sur 2 pattes. Et quand je vais chez elle, c'est de la zoothérapie. Puis là, la semaine dernière, c'était une semaine de fou. J'ai fait entrer, tu sais, des carrés dans des ronds toute la semaine. Là. Ça a été...
D'accord.
Puis je suis allée nourrir ces chèvres, les soucis, les tracas. Je suis due pour aller donner le biberon à des chèvres encore cette semaine. Ça fait un bien fou, mais je pourrais jamais non avoir ça chez nous. J'ai négocié un chat. Puis, okay. Puis c'est tout. Il fait semblant qu'il n'aime pas le chat, mon chum, mais quand je suis couché, je l'entends et parler. Oh, bébé!
Il veut pas baisser la garde, quoi. Il veut montrer que c'est love.
Oui. Mais même le chat, il vient le réveiller. Tu sais, il vient sur lui, puis tout ça. Tu peux pas me dire que tu l'aimes pas. Le chat, il sait clairement que c'est toi qui l'aimes le plus dans la maison. Il est tout le temps après toi. Donc, ouais.
Maintenant, on va passer à la question, OK? Une question par rapport à un moment marquant de ta vie. Normalement, je pose la question de cette manière, où étais-tu quand? Par contre, dans ton cas, je ne peux pas la poser de cette manière par rapport à l'événement que tu as choisi, parce que s'il y a une personne qui devait être bel et bien là, c'est toi. Non, je ne vais pas te demander où tu étais, parce que voilà.
Oh, je te confirme que j'étais là.
Ton événement marquant que je trouve super beau, qui me touche particulièrement parce que je suis un papa gâteau, c'est la naissance de tes jumeaux.
Oui.
Et ton rôle de maman. Donc, explique-nous ce changement majeur dans ta vie.
Moi, j'étais pas. Je dis pas que j'étais pas prédestinée à avoir des enfants parce que j'ai toujours aimé les enfants. La preuve, j'ai gardé des enfants quand j'étais petite. Puis j'avais mon sac de gardienne. Hein. J'arrivais avec des jeux, des toutous. J'avais un programme. Là. J'étais comme une animatrice de camp de jour quand j'allais garder. J'ai fait l'université en éducation préscolaire, enseignement primaire. J'ai toujours aimé les enfants. Mais je me suis pas vue. Moi-même, maman, avant de rencontrer mon conjoint actuel, même que souvent je disais, ben, tu sais, c'est possible que j'ai pas d'enfant, puis c'est pas grave, c'était pas un besoin viscéral. Et je le dis encore aujourd'hui, j'aurais pu faire une vie sans enfant, ça m'aurait pas empêché de les côtoyer et d'aimer les enfants. Donc, les femmes, les hommes qui décident de pas être parents, je peux parfaitement comprendre. Cela dit, quand ils sont arrivés dans ma vie, ben là, je veux dire, il se passe quelque chose. Là maintenant, pensez pas me les enlever parce que vous allez me passer sur le cœur et sur le corps. Mais moi, ça m'a transformée. Je dis pas que cette transformation-là, elle est la même pour tout le monde, mais moi, cette naissance-là, ces enfants-là ont fait de moi une humaine différente, en ce sens que j'étais une fille très insécure, qui avait besoin beaucoup d'amour, qui avait besoin d'être le centre de l'univers, je ne sais pas. Et avec des enfants, ben, tu passes deuxième, troisième, et puis en bas, tu es en bas de ta liste. Et tu acceptes de faire ça, ça va de soi. En tout cas, moi, ça allait de soi. Je me suis mise de côté, pour un temps, en tout cas. Et ça m'a fait le plus grand bien de regarder un autre nombril que le mien. Je te dirais. Puis c'était pas pour mal faire. Hein. C'était pas. D'abord, j'en avais pas tant conscience. Là. Mais de servir de modèle, de savoir que ce que tu fais et les gestes que tu poses, c'est pas pour avoir de l'attention, de l'affection, pour bien paraître, pour plaire, mais c'est pour donner un exemple, pour servir. C'est différent. Ça change ta façon de voir la vie, ça change ta perspective. Quand le but c'est pas d'aller chercher une appréciation, mais c'est de servir à quelque chose, puis de donner un outil à quelqu'un que t'aimes plus que ta propre vie, là. En tout cas, moi, ça a été un game changer complètement, ces jeunes-là. Et de te remettre en question aussi, puis de dire à quelqu'un, puis j'ai de l'orgueil professionnel, puis tu sais, mon travail de mère, au départ, c'était « je vais être la meilleure mère », puis je vais... Puis tu sais, d'être capable de dire à ton jeune « OK, là, j'ai levé le ton, là, je l'ai échappé, ça n'avait pas rapport, là, je vais être obligée de te dire « je m'excuse ». Puis mes enfants, puis moi, on se parle comme ça, des fois, ça m'est arrivé la semaine passée, je dis « ah, là, Zach, tu gosses ». Il dit « ben, toi aussi, maman, hein ». Je dis « ben oui, je gosse, tu me gosses, je te gosse, on s'aime, mais là, décroche, va en bas, comme je vais prendre un break, je vais prendre une pause, parce que tu me fatigues ». Puis je sais que moi aussi, je le fatigue, puis c'est correct, mais tout est dans la manière de dire avant justement d'atteindre des strates où tu peux plus dire des choses que tu... Je suis vraiment pas parfaite, là. Mais il force une réflexion qui n'est pas de la culpabilité. Tu sais, je suis pas coupable de pas faire les choses comme je voudrais le faire. J'ai toujours une deuxième chance. Je suis encore en train de penser à cette relation-là, mais souvent, je me dis... Je suis tellement dure envers moi-même. Est-ce que je voudrais... est-ce que je voudrais que mon enfant se tienne à lui-même le même discours que je tiens à moi? Ah non, OK, comment je l'outille pour qu'il se ramasse avec mes forces puis les forces de son père, mais pas nos travers? Fait que ça génère toutes sortes de conversations. C'est une super belle expérience, mais je suis encore à tâtons pas mal parce que là, ils viennent de devenir ados. Ah, puis j'adore ça. C'est vraiment cool, les ados. Mais je me rends compte que là, parce qu'ils commencent à avoir des corps plus d'hommes, tranquillement, on a le réflexe de les traiter en adultes. Mais ils sont en train de se pratiquer à devenir des adultes. Donc, ils n'ont pas les acquis. C'est des petits gars encore. Alors, il faut faire la part des choses. Puis des fois, mes yeux me jouent des tours. Tu sais, je vais leur demander des affaires. Puis je fais, OK, non, il n'est pas encore habile pour ça. Je ne m'attendrai pas à la perfection, mais je vais le coacher. Tu sais, c'est que c'est... C'est très cool. Ils ont vraiment changé. J'aime les nouvelles cordes qu'ils ont installées à mon arc. Je te dirais pas que je sais en jouer parfaitement, là, mais j'aime mieux la Jade d'aujourd'hui. Je la trouve plus complète, moins concentrée sur ses petits problèmes.
Ah ouais,
ma grand-mère disait tout le temps, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Bon, elle nous passait nos mille caprices, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas demandé à venir au monde. Maintenant, ils sont là, ils ont des responsabilités eux aussi, mais ça reste que, je veux dire, quand tu as décidé d'avoir des enfants, ça vient avec... Comment Spider-Man, il disait ça, son oncle, il disait, des grands pouvoirs viennent avec de grandes responsabilités.
Alors, dis-moi, moi je ne sais pas, moi personnellement, avant d'avoir des enfants, justement, je regardais des films ou quoi, il n'y avait rien. Je regardais des... Il n'y avait rien qui me faisait pleurer. Mais rien du tout ça. Et quand j'ai eu ma fille, ma première fille, c'est là que je me suis rendu compte que d'un coup, un jour, je regarde un film et puis j'avais des larmes aux yeux. Je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive?
C'est de la projection.
Est-ce que tu as vécu la même chose? Est-ce que tu es devenu un peu plus, c'est pas une faiblesse, mais un peu plus...
Bon. Ah non, moi je suis branchée sur mes glandes lacrymales. Non, mais je suis mal constituée pour le cinéma. Moi, je préfère lire parce que la charge émotive que me renvoie l'image, c'est
moins grande que au cinéma.
Ah non, l'image, ça me tue. Il y a des films que j'ai même pas encore digérés puis que j'ai vus il y a 20 ans. Là. Il est désespéré parce que je ne regarde pas, j'écoute pas la télévision et je regarde très peu de films. Quand ça commence à être trop épeurant, oh non, c'est épouvantable de dire ça, je me lève, je me trouve quelque chose, je décroche. Quand c'est trop triste, écoute, je viens même pas symétrique, là. Je pleure pas cute, là. Je pleure, là, mais tu sais, là, je mords, c'est laid. Je me souviens, j'ai vu... c'était quoi ce film-là? Oh, Into the Wild. As-tu vu Into the Wild? Ça fait des années, Sean Penn avait fait
Non, je connais le titre, mais j'ai jamais vu le film. Into the Wild, c'est avec...
C'est le gars là, qui s'en va en Alaska, là, puis qui veut vivre en ermite reclus, puis qui refuse l'argent de ses parents. Puis c'est une histoire vraie.
Ah oh, non, ça, je n'ai pas vu.
Hey, pleurer. Ben, le pianiste. Ça, là.
Oui, c'est vrai.
Mon Dieu.
Vrai.
Mais ça, là, ça m'arrive encore d'avoir des flashs de ce film-là. Là, le monde va dire, ben là, calme-toi, tu le sais que c'est des acteurs. Oui, mon cerveau rationnel le sait, mais mon cerveau émotif n'a pas eu le mémo pour ces affaires-là. Ça me bouleverse à un point tel que souvent, je fais le choix de ne pas embarquer là-dedans parce que je ne peux pas descendre quand je veux. Mais tu sais, ça aussi, je consulte. Mais c'est fou. Le cinéma, c'est... Pour l'instant, je suis encore sélective.
Changement de décor, on va parler justement cinéma. Quel est ton film préféré de tous les temps et pourquoi?
Ben, je ne suis pas originale, mais j'y vais avec Le fabuleux destin d'Amélie Poulain parce que c'est un film romantique, parce que c'est un film sur... sur le bonheur, tu sais, les gens qui ont le bonheur simple, le bonheur facile. Je considère que j'ai le bonheur facile. C'est un film qui est plein de couleurs, qui musicalement, avec la musique de Yann Tiersen, qui est parfait. C'est très franchouillard, très parisien, très français. J'aime ça, ça me parle. Il y a quelque chose d'enveloppant, de réconfortant, de ludique aussi. Tu sais, moi, l'amour, je vois ça romantique, je vois ça comme une grande amitié avec bénéfices, mais attention, toutes sortes de bénéfices. Et je vois ça comme un meilleur ami avec qui tu peux jouer, avec qui tu peux... il y a quelque chose d'enfantin aussi là-dedans. Non, ce film-là, il m'est entré dans le cœur, puis dans les oreilles, puis dans la tête... Oui, quand c'est sorti, j'ai pas eu de misère à choisir pour celui-là.
La chanson préférée de tous les temps. Et pourquoi?
Mon doux, j'aurais pu choisir encore là ben des affaires. C'était sûr que je m'en allais en chanson française. Moi, j'ai eu une passe où j'ai vraiment aimé beaucoup Renaud Séchant. Et ça revient régulièrement. Je suis d'accord, c'est pas tout ce qu'a fait Renaud qui a nécessairement bien vieilli, mais en même temps, je suis de celles qui regardent et qui écoutent les œuvres et qui les prend en tenant compte de l'époque dans laquelle ces œuvres-là ont été créées. Donc, il y a une chanson qui est la balade irlandaise de Renaud qui est... c'est une adaptation d'une chanson folklorique irlandaise. Renaud a trippé à un moment donné sur l'Irlande et il en a fait un album et il a créé des chansons, il en a repris. Et ce que j'aime dans celle-là, c'est une chanson de liberté. Il dit là-dedans que...
Et c'est quoi le titre?
La balade nord-irlandaise.
J'ai voulu planter un oranger, là où la chanson n'en verra jamais, là où les arbres n'ont jamais donné que des grenades, des goupillés jusqu'à Derry.
C'est tellement beau. Ouais, la balade nord-irlandaise. Donc, c'est beau parce que c'est une chanson, ben, c'est antimilitariste, là, mais Renaud l'était, donc il faut quand même prendre les choses dans leur contexte. Mais où il dit, à un moment donné, que sous aucune croix, l'amour ne se plaît. Donc, tu sais, pour les gens qui font la guerre au nom d'un dieu, peu importe le dieu, pour lui, c'est insensé. Il dit là-dedans, comment il dit? Qu'il n'y a pas une guerre qui pourra durer là où la bière et l'amitié et la musique nous feront chanter. Donc, c'est quelque chose de très fraternel, de très... mais tu sais, c'est un gars qui Renaud, mon Dieu, c'était les communes. C'était...
Mais oui.
Mais j'ai une affection pour ce bonhomme-là, malgré tous les travers qu'il a. Je l'ai vu en spectacle plusieurs années à Montréal, les années 90. Il était tellement saoul que j'ai quitté parce qu'il y a eu des gros problèmes d'alcool. J'ai quitté avant la fin du spectacle parce que ça me faisait de la peine de le voir comme ça.
Ouais, Renaud, tatatin.
Ouais, tatata, c'est ça. Mais quand même, ça reste une personne pour qui je ne l'ai jamais rencontré, remarque, mais je ne sais pas, j'ai une affection particulière. Et cette chanson-là de liberté et de fraternité et de communauté me fait. C'est le genre de chanson que j'aurais voulu écrire, moi.
Ah oui, c'est très bien. Non, mais c'est un monument, c'est un monsieur, c'est un grand monsieur, Renaud. Musique, ouais, ça c'est
Un
clair.
grand monsieur plein de travers, mais qui n'en a pas, je te dirais.
Chacun porte sa croix.
Oh oui.
On va passer à l'entretien, dernière fois. C'est quand la dernière fois que tu as dit je t'aime à quelqu'un?
Ce matin, aux enfants avant qu'ils partent pour l'école.
D'accord. Et c'est quand la dernière fois que tu as versé une larme?
Là là. Ben, c'est hier soir en écoutant les infos avec ce qui se passe en Ukraine. Il faut quand même que je regarde avec parcimonie parce que ça aussi, je me sens tellement impuissante que ça mouille mes yeux souvent.
C'est quand la dernière fois que tu as dit un gros mot?
Barouette, c'est un gros mot ça. Je le sais pas, j'essaie de faire attention, mais c'est vrai, dans la vraie vie, je sac des fois, mais pas après les gens. Donc j'ai dû me cogner quelque part, puis j'en ai échappé un, mais je sais pas quand. Je sais pas quand. J'essaie de faire attention, j'essaie de faire honneur à mes parents.
C'est quand la dernière fois que tu as eu envie de gifler quelqu'un, mais que tu as décidé de quitter les lieux de l'éventuel drame?
Je me chicane jamais. Je me chicane jamais. Je garde beaucoup en dedans. Mais là, j'essaie de plus garder en dedans et de dire, c'est très rare que je monte le ton et que je me chicane. Mais peut-être, ok, peut-être l'été passé, dans un contexte de travail où des fois, j'ai une vision tellement claire quand on partage non seulement pas ma vision, mais qu'on l'écoute pas ou qu'on semble avoir écouté. J'ai une colère, oui, qui monte, mais heureusement, ça redescend rapidement. Je suis une émotive, hein, je suis une sanguine, mais jamais je giflerais quelqu'un. C'est épouvantablement
C'est
insultant.
une envie, on le fait pas juste une envie.
OK.
C'est une envie.
Oui, OK, ben oui, peut-être. Mais je me soigne, là, je respire, mais ouais, peut-être.
C'est quand la dernière fois que tu as dit oui à quelqu'un ou pour quelque chose, alors que dans tes tripes, tu criais non!
Oh mon Dieu, ça arrivait souvent. Oh, ça doit être cette semaine. On est lundi en plus, t'sais. Oh oui, mais tu sais, souvent, là, j'ai pas envie pour toutes sortes de raisons, parce que j'ai peur, parce que je connais pas, ou c'est des gens que j'ai jamais vus, puis je suis un peu gênée. Puis finalement, je me rends compte que mon oui, même si je voulais dire non, me sert, tu sais, que j'ai bien fait. Une fois sur place, je fais, oh mon Dieu, j'ai bien fait de dire oui. Donc, je suis beaucoup oui dans la vie, mais ouais. Il y a des fois que j'aurais envie de dire non pour me reposer, puis me retrouver dans l'équation, puis prendre soin de moi. Ouais, peut-être en fin de semaine. Il est arrivé une fois où j'aurais dû dire non, puis que j'ai dit oui. Mais je te dis pas c'est pourquoi, parce que je veux pas faire de la peine
Non,
à moi.
non, 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 on ne va pas aller aussi loin. Et pour la dernière, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois?
Hey, je suis due, maintenant que t'en parles. Ben, j'ai flatté des chèvres pour la première fois la semaine passée.
Et tu leur as donné un biberon.
Oh,
J'ai vu ça.
c'était pas facile. Mais tu vois, là, je dis un gros mot, je pense, dans la vidéo.
Je sais pas, je sais pas, je n'ai pas fait
Mais tu
attention.
réécouteras. Alors, je pense que c'est
D'accord.
là. Oh, mon
C'est
Dieu.
là.
Oui,
Ouais.
j'ai eu un peu peur. Oui.
Ils en ont perdu leur couche. Il y en a une qui a perdu sa couche.
C'est effrayant.
J'avais peur, je dis, les chèvres font des caca qui puent, mais des boules comme ça, plein de petites boules, c'est dégueulasse. J'ai dit, ah.
On va-tu se laisser comme ça pour vrai? C'est extraordinaire.
Oh
on ne va pas remuer la merde, sinon ça pue. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Jade pour ce moment de partage. C'était un surkiff. Quelques petits rappels avant de se quitter. Abonnez-vous, partagez ce podcast et parlez-en à deux personnes qui vont en parler à deux autres et ainsi de suite. Un détail super important, lâchez-moi 5 étoiles si vous êtes sur Apple Music ou un commentaire si vous utilisez des plateformes telles que Spotify, Google Podcasts et autres. Tout cela permettra, vous le savez très bien, de donner plus de visibilité au podcast. Donc, je compte énormément sur vous. Suivez-moi sur ma page Instagram et Facebook à quellehistoire.podcast. N'hésitez pas à m'écrire par mail à quellehistoire.podcast@gmail.com. À chacun son histoire. Mais quelle histoire! À vous de le découvrir dans le prochain épisode, jeudi prochain. Ciao, ciao.